Et voilà, on y est. Bonjour à tous. Premier épisode du podcast L'Assemblée, votre source peut-être pas primaire pour tout ce qui est Magic the Gathering. On va commencer juste par une simple présentation. Moi, dans mon cas, c'est Emilio Constanza et mon coach va se présenter de même.
Salut, moi c'est Massimo Verrecchia. Bon, ben, dans le fond, nous, on fait ce petit podcast-là parce qu'on aime se parler de Magic, mais il y a d'autres raisons aussi.
C'est aussi principalement parce qu'on est tous deux des étudiants en communication, en médias. Donc, pouvoir se partir un petit projet comme ça pour le fun, en plus autour d'un sujet qu'on aime, comme Magic the Gathering. Cependant, si vous cherchez des stratégies ou des deck tech, c'est pas la place pour vous, parce que mettons que nous nos decks on les prend à une seule place seulement.
Top deck hero.
Non, sinon,
trois dragons aussi là, c'est chiant là.
Sinon les listes même copier-coller de MTG Goldfish, ouais. Pour ça, donc si jamais c'est vraiment des stratégies que vous cherchez, c'est ouais, pas vraiment la place. Même pour ce qui est du temps qu'on joue aussi, on n'est pas des vétérans. Moi dans mon cas, ça va faire peut-être seulement un an, d'ici quelques semaines, ça va peut-être seulement un an que je joue à Magic, vraiment, là, dans des événements.
Ah, ben, moi, ça fait quand même pas pire. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à cause que mon frère, il riait de moi parce que je jouais à Pokémon. je me sentais mal. Je suis comme, OK, ben montre-moi comment jouer, parce que de loin, Magic, on dirait, c'est un paragraphe sur toutes tes cartes, mais après avoir commencé à jouer, quoi que je jouais Mono Red, ça se faisait un peu tout seul. Mais ouais, là, ça fait 2 ans, on est rendu sur du moderne aussi, fait que c'est bien le fun.
Quoi qu'un paragraphe, ça va jamais comparer à Yu-Gi-Oh! Ce qui est de paragraphe sur les cartes, surtout que c'est des cartes un peu plus petites. Essaie de lire sur ces affaires-là, puis qu'après ouais, ça, t'as plein... moi, dans mon cas, j'ai commencé Magic, en fait, à cause de Mass, mais c'est parce que tous les deux, on jouait... En fait, on a commencé par Pokémon, mais...
On a évolué, disons.
Les magasins ils ont pas évolué, mais on va pas plus en parler là. Ouais. Donc, on est rendu sur Magic the Gathering. Puis écoutez, l'intention de ce podcast là, comme on vous a dit, c'est vraiment de partager nos opinions sur certains decks, partager justement ce qu'on fait de semaine à semaine, parler justement des sujets chauds. Par exemple, aujourd'hui, on veut vous parler de Zendikar Rising, on veut parler des événements de la semaine, on veut vous parler même de la discussion de la reserve list qui fait vraiment, je dirais, fureur cette semaine là, mm-hmm. par rapport à ça.
Mais ça, fait que dans le fond, on va commencer par les spoilers, mettons les cartes qui nous intéressent le plus. Moi, je n'ai noté 2. La première étant Jace Mirror Mage. Bleu, colorless, Planeswalker à 3 mana, commence à 4. Planeswalker à 3, ça me fait penser à son compatriote Teferi, mais lui, il n'est pas autant désagréable. Fait qu'il y a un kicker pour 2. S'il est kické, when Jace Mirror Mage enters the battlefield, if Jace was kicked, create a token that's a copy of Jace Mirror Mage, except it's not legendary, and its starting loyalty is 1. So, seems fair. Comme, tu sais, ça coûte 5 si tu veux avoir les 2. J'ai déjà vu payer à 5, là.
Ouais.
Son plus 1, scry 2. C'est comme... T'sais, ça me dérange pas que ce soit ça. c'est bon pour filter tes draws, mais moi, c'est vraiment plus son 0 qui m'intéresse, parce que... Son 0, je vais vous le dire. Draw a card and reveal it. Remove a number of loyalty counters equal to that card CMC from Jace Mirror Mage. En standard, je vais vous rappeler, on a les beaux Scryland, toutes les temples. Fait que selon moi, c'est une mécanique qui va être assez exploitable pour pas mal tous les decks bleus qui veulent se diriger vers un tempo slash control stratégie. Puis j'ai aussi ma deuxième carte que j'ai notée. Là, on s'en va dans une autre couleur, le noir. Nighthawk Scavenger, ou je l'appelle le bootleg Tarmogoyf. C'est un 1 plus étoile 3. Ça coûte noir, colorless. Flying, Death Touch, Lifelink. Nighthawk Scavenger's power is equal to 1 plus the number of card types among graveyard in your opponent's graveyards. Excusez-moi. Fait que c'est ça, selon moi, un bon 3 drop pour les decks mono-noir principalement, en standard. Pioneer aussi risque d'avoir un peu de jeu, parce que ça reste une grosse patate, quote-unquote, mais comme qui a quand même des keywords importants. Fait que, ouais, selon moi, c'est les deux cartes, ça, puis il faut pas oublier les Flipland, mais ça, mon collègue Emilio, un peu plus, vous en parle.
Ouais, ça, ce qui est un peu drôle, c'est qu'en plus de nous deux, t'es le seul qui joue pas vraiment en standard. En fait, je dirais, en fait, je dirais zéro en standard.
Comme, full disclaimer, standard, ça arrive nord, c'est une joke, c'est comme...
Mais écoute, moi-même, je vois pas vraiment de standard en personne. C'est, ouais. Ça, tout se passe pas mal juste sur Arena, parce que quand je peux pas jouer en personne, écoute, je vais pogner le moyen du bord le plus rapide. Puis ça va être Arena, malgré qu'il y a toujours Historic qui est disponible. Puis justement avec les récentes additions d'Avanked Remastered qui nous ont donné non seulement Collected Company, Thought Seas, puis plein de cartes de même. Puis en plus, Jumpstart nous a donné tellement de cartes intéressantes là-dedans. Là. Écoutez, moi, pour ce qui est de Jace Mermaid, je pense en curve, genre j'aime cette carte-là en curve, mais l'affaire c'est que moi j'ai jamais été un fan de la mécanique Kicker. C'est pas une mécanique que j'ai aimé regarder, et c'est encore moins une mécanique, en fait encore moins populaire en ce moment pour ce qui est de Pioneer, qui serait pas mal le seul format dans lequel Kicker aurait peut-être une chance, parce que Modern oublie ça. Parce
Modern,
que
tu vas juste
Modern, jouer Modern, tu, Modern tu joues en curve. Tu te retrouves contre un John, c'est comme, bah, ok, bah, tour 1, Thought Seize, tour 2, Goyf, tour 3, Liliana. Tu sais, c'est. En curve, tu vas faire comme Jace Mirage, qui va te permettre juste de draw.
Ça va être bon en standard, parce qu'en standard, admettons que tu veux jouer un deck qui joue du bleu puis du blanc, tu pourras faire tour 3 Jace, tour 4 Teferi, le nouveau Teferi là, qui est broken.
Ouais.
Puis tour 5, tu vas juste jouer un gros payoff comme Dream Trawler ou. Non, je pense que c'est juste Dream Trawler en fait. Non?
Bah, Dream Trawler, c'est pas mal un bon payoff si t'es capable de d'autres ton adversaire. Étant capable non seulement de piger plein de cartes, puis juste de pouvoir lui donner Hexproof.
Puis Spot Conqueror's Death.
C'est comme c'est chill. Ah non, puis Spot Conqueror's Death, je pense que ça va être une des meilleures cartes en standard pour la prochaine saison.
Yeah.
Puis pour ce qui est de Nighthawk Scavenger, je pense que ça aurait sa place justement en standard, mais mis à part de ça, dans l'Eternal Format, je vois pas la carte vraiment sortir de standard. Mm-hmm. On va voir qu'est-ce que ça va être dans les prochains mois suivant la sortie, et on risque très 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 sûrement d'y revenir. Moi, pour ce qui est des deux cartes qui ont retenu un peu plus mon attention, la première étant un peu un meme, mais il fallait quand même que je la mentionne, c'est Karrix the Raging Isle, qui est une créature légendaire, Crab Léviathan, qui a l'effet que les spells que votre adversaire va cast, qui vont target Karrix the Raging Isle, vont coûter 2 plus à cast. Donc, c'est bon, admettons, on va dire, le Petty Theft, le côté instant de Brazen Borer, non seulement va coûter 4, mais genre, c'est insane. C'est insane. et pour 3 colorless, a une activated ability qui fait que Karrix va prendre plus X, moins X, jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de islands total que vous contrôlez. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est toutes les islands. Donc, si jamais on veut splash une autre couleur dedans...
Non, c'est free.
Ça se fait. Si on veut jouer ça dans du contrôle, à l'Out Fountain, ça fonctionne.
Ouais.
Et justement, si on se dit, ben là, s'il y a le côté moins X, ben c'est quoi son power toughness? Bien, mesdames et messieurs, c'est un 0-17 pour ceux qui pour ceux qui savent pas. Et en plus de ça, cette habilité-là peut s'activer plus d'une fois si vous avez vraiment beaucoup de mana à gaspiller. Puis que, écoutez, si standard va rester une méthode de top deck comme ça l'est en ce moment, de premier qui pige Juro. Premier qui pige Juro, premier qui pige Nissa gagne. Ben maintenant, on va pouvoir dire premier qui pige Karrix il gagne. Ouais. La deuxième carte que j'ai, en fait, j'en ai deux. L'autre, malheureusement, je la trouve plus. Je vais peut-être vous la ressortir plus tard dans le programme. Mais sinon, ça va être Ancient Greenwarden, qui est une créature qui coûte 4 colorless et 2 verts. C'est un élémental qui a Reach. C'est une 5-7 qui permet de jouer des lands du graveyard. Et justement, s'il y a un land qui rentre sur le battlefield qui va causer une habilité à trigger, ça va trigger un deuxième fight. Donc, c'est un panharmonicon pour les landfall. Et en plus de ça, ça permet de pouvoir justement jouer les lands du graveyard. Donc toi, je sais pas si t'as vu Mass, mais justement, Zendikar Rising va avoir énormément de bonnes créatures qui vont utiliser la mécanique Landfall, dont justement le nouveau Omnath.
Là, ça c'est le Omnath qui coûte quoi? Il coûte 4, je pense?
Ouais, le Omnath à 4 couleurs.
Chaque fois, il y a un CMC de plus, il devient de plus en plus boosté.
C'est que à chaque nouveau land qui va rentrer en jeu, ça va être une habilité différente. Donc, par exemple, le premier land qui va rentrer en jeu, ça va être 4 vies. Si c'est le deuxième, t'ajoutes ces quatre couleurs, donc qui sont rouge, bleu, blanc et vert. Et si c'est la troisième fois, il fait 4 à chaque adversaire puis chaque Planeswalker qu'il contrôle. Ouais, donc si jamais on est capable de jouer ça, qui peut vraiment bien fonctionner, je dirais que ça pourrait vraiment bien fonctionner dans un deck justement que on a encore le Omnath en Tamer en standard qui profite encore super bien des élémentales comme justement celui que je vous ai mentionné, le Ancient Greed Warden qui je pense, malgré que c'est une créature sur une grosse curve, pourrait vraiment take over une game, je pense, ouais. Juste avec cet Apharmonicon effet là et que justement il y a beaucoup de créatures dans le format que leur landfall trigger c'est simplement leur donner +2/+2, donc pouvoir sur un one drop passer d'un 0-1 qui non seulement à ton premier land du tour va être un 2-3 et après ça qui puisse trigger une autre fois grâce à ces créatures là qui soit une 4-5 et si jamais puisque tu joues un deck landfall, tu sois capable de ramp, ça peut juste take over une game. Et en plus que Crash Through est revenu dans le format, ça splash super bien dans ce deck.
J'ai joué Crash Through longtemps hein, avec mon Red Prowess, fait que moi j'ai rien contre cette carte-là.
Ben c'est ça. Fait que ça c'est pas mal ce qu'on trouve intéressant, mais vraiment, moi, ce que j'aimerais vraiment qu'on aborde de Zendikar Rising, c'est le
plan.
Même pas les flip lands. Non, mais c'est ça. On reste sur le sujet des lands, mais c'est.
Ah ouais, ok. C'est là qu'on aurait dû avoir.
les fetch lands. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les fetch lands sont de retour. Wizards ont promis qu'ils allaient reprint des fetch lands en 2020.
Ouais.
Cependant, ça ne va pas être dans le Q1, ça ne va pas être dans le Q2, mais ça va plus être entre le 3 et le 4, soit en septembre prochain avec Modern Horizon. Ce qu'on va avoir en attendant, ça va être dans Zendikar Rising. Et ça va être sous forme de land expédition. Et encore là, on va retrouver en expédition pas juste les 10 fetch lands. Donc, admettons, tu achètes une box. Non seulement c'est en box stopper, fait que tu vas en avoir quoi? Juste deux?
Ouais.
Me semble c'est deux box stopper que tu as. Non seulement tu as une chance sur trois de pogner une fetch land parce que justement tu as 30 lands au total là-dedans. T'en as qui sont bons là-dedans. Me semble t'as Ancient Tomb qui est dedans. T'as Cavern of Souls qui est dedans.
Ah, ben t'as tous ceux-là qui coûtent cher.
T'as Prismatic Vista qui est dedans. Ouais. Mais t'as les Filter Land.
Ouais, mais ça, tu peux. Genre Twilight Mire, je pense. Ou comme. T'as des jokes.
Ouais, mais c'est comme. Tu gambles, mais en même temps, c'est parce que tu peux avoir un land qui coûte cher en même temps. C'est parce que c'est comme un land que tu pourrais acheter comme pour 5$ au LGS.
Mais tu sais, le monde, quand ils achètent leur box, ils s'attendent pas à faire nécessairement le tripler leur profit. Souvent, ils perdent l'argent parce qu'ils vont jouer les cartes.
En effet, mais.
Ouais, là, avec ceux-là, je comprends qu'ils peuvent faire de l'argent, ça, c'est sûr.
Ouais, mais peut-être l'argent plus en les gardant scellés.
Oui. Il faut pas que tu...
Peut-être.
Pas fucking ça,
sûrement, ben, sûrement que ça va être bon à investir dans ces sets-là, parce que... aussi, il va avoir... Je sais pas si t'as vu aussi avec les packs, ils ont aussi comme les slots pour les anciennes cartes. En fait, pour les cartes avec les vieux borders.
Nice.
En fait, c'est... J'ai pas trop suivi comment Zendikar Rising veulent fonctionner, mais comme t'es au courant, tu vas avoir les collectors qui sont à peu près 25$ du pack, puis ils ont, juste pour moi, 350$ la box. Je sais aucunement c'est quoi les prix en ce moment, là. Ouais. On aurait dû mieux faire nos recherches.
Ben là, c'est correct.
Mais sinon, on va avoir, justement, deux sets de booster box. Donc, ça va être les set boosters puis les draft boosters.
Ouais.
Donc, les draft boosters qui sont vraiment les boosters sur la forme qu'on connaît. Et après ça, ça va être les set boosters qui ont justement rajouté un petit peu plus dedans pour pouvoir nous inciter à acheter des booster packs. Mais honnêtement, acheter des booster packs...
C'est comme... Selon moi, c'est la pire façon de dépenser ton argent.
C'est la pire
Achète
façon.
Achète tes singles puis comme, va jouer.
À moins que tu es un collectionneur.
Non,
là,
fair enough. Là, c'est comme...
Mais rendu là, si tu es un collectionneur, moi je dirais en tout cas.
Achète la
box. Je suis pas assez qualifié pour ça, bien sûr. Là. Mais écoute, toi, étant déjà un joueur moderne, je veux dire, tu as déjà les fetch lands.
C'est ça. C'est comme... Mais moi, la raison pourquoi je dis achète pas des packs puis j'ai les fetch, parce que ça vaut pas la peine de dépenser 80$ dans des packs pour essayer de trouver ta carte à 75$. T'sais, c'est comme achète la carte and it's done. Ça, c'est mon opinion, mais il y en a qui pensent pas comme ça. Mais puis oui, en moderne, les Fetchlands, les reprints, ça va faire du bien. Surtout, tu sais, une carte Misty Rainforest qui a dépassé Scalding Tarn, qui était longtemps la last Fetchland à acheter. Là, c'est rendu Simic. Parce que Simic, c'est la meilleure combinaison. ça me fait mal de dire ça. J'ai tellement détesté Simic au cours de mes années à Magic. Puis là, c'est la meilleure. Avant, Simic, c'était une joke. Mais là, quand le gars il ramène sa 6-6 au tour 4, c'est comme ah, nice, nice, nice,
nice, nice. Ah, nice. Mais c'est surtout, admettons, pour moi que ça fait vraiment pas longtemps, honnêtement, que je joue moderne.
Ouais.
Donc, tu sais, par exemple, le seul deck que j'ai en moderne en ce moment de disponible, c'est Tron, le bon vieux Tron, Urza Tron. Mais. C'est sûr que pour moi, ça fait chier un petit peu d'attendre à peu près un an pour pouvoir avoir accès à ces fetch-là dans des decks, par exemple, qui m'intéresseraient comme EZ Blitz, comme par exemple John, qui est un peu, je dirais, le Peacekeeper du format, tu sais, qui est comme le deck par excellence, vraiment, je dirais, le deck ouais, quand... Mid-range. Le, non seulement le deck mid-range, mais comme le deck poster du format.
Ouais, c'est parce que ça, c'est comme Richard Garfield voulait qu'on joue. Tu sais, c'est des ton attaque, ta créature, puis ton removal spell. Mon mouse rumple va tuer ton ooze. Tu sais, faut que ça reste simple.
Ben c'est ça. C'est juste faire comme deck.
Oh ouais.
Mais on peut justement en parler un petit peu pour ce qui est de moderne. Justement, toi tu reviens, Fred, d'un événement, puis Fred d'une semaine, deux événements modernes.
Deux événements. On va juste donner un shout out au top deck pour faire des événements. Ça on apprécie, même si vous mettez les places en ligne à 7h02 au lieu de 7h, mais c'est pas ça le point. Fait que cette semaine, joué jeudi, un vieux 2-2. Tu sais, ça a bien été. Tu sais, tu pars, en plus, Emilio était pas là. Puis là, après la première round, je bats mon frère en plus, ça c'était quand même drôle. Je gagne contre Dead Shadow. Moi, je suis sur The Rock. Ça fait quand même 6-7 mois que c'est mon archétype. J'aime bien. La raison pourquoi je joue pas John, Renin 6, Blackleaf Cliff, quoi. Puis. C'est ça. Fait que le runner, je joue contre Grixis, Dead Shadow, tout va bien. Le matchup est early en ma faveur à cause de mes push, de mes DK, de mes Liliana, pis de mes Lurus. Je texte Emilio, je fais hey, 1-0. Il fait ouais, 2-2 incoming. Là, je fais I hope you're wrong.
Pour ceux qui savent ça pas aussi, moi, parce que personnellement, 2-2, je trouve que c'est prendre juste le pire.
Ouais,
le pire classement que tu peux faire, là, honnêtement. Honnêtement, je préférais faire 0-4 ou juste 1-3 que 2-2. Parce que tu sais, quand tu finis 1-3, quand tu finis 0-4, il y a sûrement une raison. Parfois, ça peut être vraiment le deck qui fonctionne pas ou là, quelque chose comme ça. Ou genre, tu pognes vraiment juste des mauvais match-up. Ou rendu là, c'est juste comme, drôle d'en rire. Là, c'est comme c'est 2-2. C'est comme
ben, je suis bon, mais il y a du monde meilleur que moi. C'est comme non, c'est pas ça. C'est ça. Le round 2, je joue contre Storm. Là, je regarde mon sideboard. Je regarde mes Damping Sphere que j'ai enlevé 15 minutes avant l'event pour racheter des Filminator Mage. Là, je suis vraiment nice. Gamer, j'ai gagné parce que des attaques et des removal spells, c'est toujours bon contre Storm. Là, game 2, j'ai Inquisition sa main. Je vois que Shenanigans. Ça, c'est Destroy Target Artifact Dredge 1. Là, je fais I'm telling you right now parce que le gars il parle en anglais. I forgot my D Spheres. He's like, oh, ok, nice, 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 nice. Good to know. Je me suis jamais fait un casse par Storm. Game 2, game 3, j'avais l'air un clown. Round 3. Celle-là, elle a fait mal contre Burn. Là, c'est un des meilleurs match-ups, surtout de Rock, parce que sa mana base fait moins mal. Là. C'est quasiment c'est des fast lands, puis il y a beaucoup de basics. Gamer, ça a bien été. Là. J'ai fait ce que Rock devait faire. Ulté Niliana de Veil contre Burn. Séparer ses deux petits permanents. Game 2, Game 3, je sais pas ce qui s'est passé. Mon opponent a somehow grindé The Rock avec Burn. Comment il a fait ça? Il a fait ça avec des reliques, il a fait ça avec des Rest in Peace. Puis des timely Skullcrack quand je devais gagner de la vie. Round 4, UID Control. Ça, c'est un match-up vieux comme le monde. The Rock contre UID. Gamer, j'étais stuck à 2 lands sur mon Mulligan à 5. Ça fait toujours mal. Puis Game 2, la raison favorite. Ma raison préférée pourquoi j'aime jouer Lurus puis Dark Confident. Ça passe à travers Aethergust. Aethergust. Fait que là, j'ai une question sa main. Je vois qu'il y a comme 3 Fairy, des pads, des affaires la même. Je prends 3 Fairy. Il fait, tu prends pas mon gosse? Je fais, non. Je fais tour 2 Bob, tour 3 Lurus. Il est comme, ah, nice créature. Puis game 3, un grindfest immense. J'ai jamais autant pigé de cartes avec un Lurus, mais comme lui avec, parce que j'avais pas de façon de dealer avec ses Planeswalkers. Fait que ça finit que j'ai ulté Liliana la soap 14 tours plus tard. Puis il pouvait pas dealer avec 6 millions de zombies par tour.
Mais ça doit être tough par contre avec des decks comme ça. Tu trouves pas ces decks, ça peut être tough parfois, Mulligan à 5, parfois avec des decks comme ça pour que tu respectes justement ta curve de soit Inquisition Tantise, après ça dans un Tarmogoyf ou Dark Confident, après ça dans un Liliana.
Mais tu sais, Mulligan à 5, dans ma vie, je pense que j'ai dû en gagner. Là. Mettons, si on met ça sur 10, j'ai dû gagner 3 games de toute ma vie.
C'est vraiment Mulligan sur 5, si je me donne à peu près 70%.
Ok, c'est ça, toi t'as les 7 autres que j'ai perdu, c'est parce que t'es sur. Pas sacré, mais t'es sur Mono Green Tron. Fait que ça, c'est comme, tu montes la carte, ta main, c'est trop. Deux pièces de Tron, une map, Expedition Map, puis un payoff. Fait que c'est comme, ok, ben.
Écoute, justement, la dernière fois que je suis allé jouer en moderne, justement, au top deck, j'étais contre E-White Control. Donc justement, pour moi c'est pas un match-up que j'aime.
Non,
parce que
Field of Ruin puis des Force of Negation.
Non seulement Field of Ruin, toutes les counterspells que ça peut avoir, ouais. En plus que ça joue Jace, ouais. Snapcaster Mage et
Path,
mettons sur Oulama qui est une créature indestructible. C'est vraiment pas un match-up que j'aime jouer, ouais. En général, que ce soit en Standard, en Pioneer ou en Modern.
Emilio n'est pas un fan de UI, juste que tout le monde sache.
Je suis pas un fan de contrôle du tout. Ouais. Donc Je mulligan à 4, je pense que c'était justement game 3. Je pogne Natural Tron, Karn. J'ai mulligan à 4, je pense honnêtement que c'était juste le meilleur draw que j'ai eu. Et justement, il n'y avait pas eu le temps d'avoir toutes ces lands.
Je me souviens.
Je pense que c'était deux Mystic Sanctuary, ouais, qui sont rentrés tap. Fait que,
nice Gilgate.
Good, ouais. Je vais exiler ton land.
Ouais.
Hey, ton autre land? Fait que je pensais ton land, il était rendu tour 4, je pense, à un land. Donc c'était, je pense que ça avait juste settle the deal. Moi, pour ce qui est de mes événements cette semaine, malheureusement, j'en ai pas joué la semaine, étant occupé avec les travaux scolaires qui nous commencent déjà à nous ramasser. Moi, dans mon cas, cette semaine, j'étais un peu plus occupé justement sur Arena, en jouer en Historic, en événement avec un deck qui est populaire, qu'on va reparler un peu plus tard en Pioneer, mais qui a quand même une assez bonne version historique qui s'appelle, en fait c'est le Mono Green Planeswalker ou Mono Green Dévotion sur la version Pioneer. Donc moi, le deck, ce qu'il y a bien sûr de différent qu'on n'a pas sur Arena, notamment Oath of Nissa, c'est pas c'est une des cartes auxquelles on n'a pas accès sur Arena. Mais on a quand même l'essentiel du deck avec les Llanowar Elves. I guess les Elvish Mystic avec les Guarded Goose. C'est juste que les Guarded Goose vont pas donner de la mana à chaque tour, malheureusement. On avait accès à Burning Tree Mystery, mais ça a été banned parce qu'en Historic, Gruul, c'était probablement le meilleur deck qu'il y avait en Historic. Sinon... Et le reste, on a toute la line-up de Planeswalker, on a Nissa, on a Karn Great Creator et on a le Vivien Arbor Ranger. Et après ça, Arena fait que justement on a des super belles cartes dans le sideboard, par exemple Craterhood Behemoth,
Elder Gargaroth.
Elder Gargaroth aussi, que la liste originale que j'avais vue en renaît aucun dans le main board et en fait renaît principalement. Des Llanowar Visionary.
Ok, ça c'est le 3 mana draw card.
Le nouveau 3 mana draw card.
Ça, c'est bon, j'aime cette carte là, c'est fair. Hein, c'est pas...
Ben, c'est juste que j'aime ça avoir des threats parce qu'à un moment donné, ce que je retrouvais souvent avec ces mains là, c'est que 3 quarts du temps, ce qui arrivait, c'est que par exemple, j'avais les lines.
Of Abundance.
Les lines of Abundance que je me retrouvais souvent avec. Puis à chaque fois. À chaque fois, j'étais avec le Land of Abundance, puis là, j'ai mes cartes pour ramp, genre, je veux ramp dans quelque chose, s'il vous plaît.
Ouais.
Donc, mis à part Voracious Hydra et Jade Lag Ranger, tu sais, j'aimerais ça ramp dans quelque chose, mettons,
non, pas mes Plains Walker,
puis c'est pour ça qu'au final, j'ai mainboard de 3 Elder Gargoth, parce que je pense même que la liste originale en Pioneer en joue 3 mainboard, le quatrième étant dans le sideboard. Bien sûr, on a d'autres cartes justement qu'on peut avoir accès avec Karn, par exemple Stormcold Serpent, Tormod Crypt, Gravedigger's Cage, Maze Mind Tomb, Sorcerer's Spyglass, peu importe ce que vous avez, même à défaut de ne pas avoir des Nyxtos sur Arena, on a toujours Nyx Lotus. Cependant, ouais. Ça rend tap, mais au moins c'est toujours un petit plus si jamais on va jouer une longue game.
C'est ça.
Sinon, on a toujours God Pharaoh Statue, qui est vraiment, je trouve, vraiment sous-estimé comme carte, Meteor Golem et Platinum Angel. Sinon, vraiment, si on est pour moins 5 Vivien, je dirais qu'on a pas mal deux targets principales parce que toutes les autres vont rentrer dans la catégorie artefact, donc on pourrait être prêt avec Karn. C'est vraiment Craterhood Behemoth qui
gagne la game, usually. Là,
usually gagne la game. Ou l'autre carte que normalement mes adversaires vont juste couper toutes leurs cartes en moderne quand le Oulama. Même pas rentre sur la
table.
Fait juste caster, c'est comme moi, ben, je vais exiler deux affaires. Normalement, quand un Oulama rentre sa table, c'est assez pour. c'est assez pour avoir un scoop.
Ouais.
J'ai pas nécessairement les résultats directement de cet événement-là, mais ce que je peux dire, c'est que cette semaine, ayant joué avec le deck, j'ai fini dans 6 games de rank, 6-0 en gold.
Flex.
Donc prenez-le comme vous voulez. mais j'ai bien sûr contre toutes les match-ups, par exemple contre du mono white, je suis 2-0 contre ça. Par exemple, red black, je suis 1-1, qui serait notamment Ragdoll Spiromancer.
Ouais.
Sinon, mono green, je pense dans le meilleur match-up, on finit 2-0 aussi. Vraiment, le seul match-up à date dans ce que j'ai joué que j'ai pas gagné contre, c'est en Dimir. Je sais plus exactement c'est quoi la liste parce que j'en ai.
Dimir, c'est sûr. Tu sais, d'habitude, Dimir, ça se fait tout le temps casser la gueule contre les decks verts. Tu te souviens-tu, c'était plus contrôle, c'était comme Dimir Surveil avec
genre,
des Affirmation Campaign.
Je pense c'est justement. Je me rappelle m'être fait Totis
okay.
Tour 1.
Ah, mais souvent, c'est comme ça qu'ils vont essayer
de gagner. Tully Rager Tour 2, puis je pense que c'était assez pour moi parce que justement, je pense qu'ils avaient enlevé mes deux Planeswalker, puis là, c'est comme, ben,
ouais.
Ok, j'ai joué ma Ley Line de ma main de départ, puis j'ai joué mon Land War Elf, puis là, je pigeais juste des lands.
C'est ça, souvent, les decks fair contre les decks de Rem. Tu sais, mettons un exemple de Dorok en moderne contre Amulet Titan, ils vont essayer d'Inquisition, puis Totis et Threat. Slam down un Goyf, puis comme fingers crossed que ce qu'il pige, c'est des lands et non pas une 6-6 qui va chercher deux autres lands.
Ça c'est vraiment fierce. Ben, étant un joueur vert, c'est comme j'aime ça pogner.
Faut bien qu'à un moment donné, il y a un downside à jouer vert. C'est parce que t'as pas d'interaction, juste le temps que tu slam down ton CMC 7 card ou whatever que tu castes. Là.
Ben ouais. Mais justement, tu sais, pour ce qui est de moderne, on s'amuse parfois, on regarde ce qui est sur Goldfish, par exemple, les decks qui finissent 5-0. Par exemple, le premier deck qu'on retrouve sur la liste, étonnamment, ben, prenez-le comme vous voulez, excusez-moi, c'est plus un deck mono black control qui joue une seule et unique créature dans le deck, étant Nether Spirit.
Ah non, c'est vrai.
Ouais, mais c'est une bonne carte. Mais après ça, tu sais, joue un playset complet de Lyanna of the Veil.
Ouais.
Puis joue 23 spells, donc Link to Dust, Fatal Push, Inquisition.
Ah, j'aime tellement ça, Link to Dust.
Totties, Raven's Crime, Smallpox, puis Wrench Mine.
Ah, ok, c'est un deck qui est rag dans le fond. Ça veut tout discarter ta main, puis ça joue les affaires qui te font du damage à ton upkeep. Ouais, non, c'est ça.
Ouais, ça, c'est un deck qui a fini 5-0. Sinon, notamment, on a là-dedans Azorius Spirit, Dredge, Ragdoll's Midrange, Burn, Benturo, Infect. Ensuite, on a ici un deck Selesnya qui est comme un deck Go Large avec Collected Company et des petites créatures comme Spike Feeder. On a le Ranger Captain Deos, on a des Scavenging Ooze, on a le Eliod Sun Crown, Walking Ballista.
Ah, il y a le combo aussi, Eliod Walking Ballista.
Il y a le combo
Walking Ballista. Ça ressemble à fond au deck Pioneer, parce que le deck Pioneer, c'était quasiment ça. C'était Selesnya Eliod ou Mono White Eliod, mais comme... Tu pouvais gagner une game avec tes créatures et juste du combat damage.
Ouais, justement que Walking Ballista se fasse.
Ouais.
Reçoive le.
Le Banhammer.
Le Banhammer. Sinon, encore dans la liste Primeval Titan, en fait, Amulet Titan qui joue maintenant Uro dans
Parce que
listes.
Why not, tu sais. Ton match-up n'était pas déjà assez bon contre aggro.
C'est juste, c'est free. Mais justement, un deck que là, on retrouve, que moi, j'ai honnêtement, dans mon temps moderne, j'ai pas encore joué contre. Et que se retrouve justement après un classement 5-0. Peut-être que ça va faire un retour, mais Bogos.
Je l'ai vu. Est-ce que c'est la liste qui joue des mana morphoses?
Non, celle-là. Okay. Oui, celle-là joue 3 mana morphoses.
C'est quoi son problème? C'est comme. Tu t'ennuies-tu de Once Upon a Time, là, puis il veut dig dans une créature, là? Mais comme. Bogos, l'affaire, c'est que ça va être bon être toutes les. On va essayer d'être poli, toutes les 3 mois. Parce que là, tout le monde a oublié. Tout le monde a dit, ouais, un expoof, je peux pas dealer avec. Mais il est chanceux que ce soit pas une méthode Tron, parce que Tron ou Bogos, c'est son meilleur match-up. Pour Tron, c'est ça. Mais en tout cas, ça se peut.
Puis sinon, même un autre deck, j'ai l'impression qu'il est comme ça aussi, je dirais Dredge aussi. C'est comme un deck que le monde oublie. Jusqu'à
ouais,
ce que...
ça aussi, même affaire. Le monde
même
va
si,
mettre du
même
Graveyard
si Ogak, même si Ogak.
Ah, parle-moi pas de Ogak Summer. Hands down, worst magic content of my life. Ouais. C'est comme, voyons, non. Une 8-8. Ça a le Trample. Pourquoi ils ont mis Trample sur ça?
Ah, même justement, là, je sais pas pour ce qui est de notre méta locale, mais un deck qu'on a vu pick up un peu de hype depuis le banning de Arkham's Astrolabe. Le monde se sont dit, oh, ça va être une méta de Blood Moon.
Ah non, c'est ça. Finalement, c'est juste Uropal.
Red-green mid-range.
Ah, ça aussi, ouais.
Red-green mid-range, non, mais justement, je sais pas pour ce qui est de la méta locale, mais c'est pas un deck que j'ai vu encore vraiment avoir énormément de succès. pour ce qui est des même pour ce qui est de la liste sur sur MTG Goldfish, le deck est passé, je pense, maintenant au 10e sur sur la liste des decks les plus joués de la méta en moderne. Grul Midrange. Écoutez, je sais pas.
Le monde a réussi à s'adapter parce qu'admettons, moi, au top deck, il y avait quand même deux, au moins un, mais des fois deux aussi qui jouaient ça. Faut juste que, tu sais, play around Blood Moon, quand tu le sais, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Là, c'est sûr que si, admettons, t'as des fast land puis des shock land, tu peux rien faire. Mais comme, c'est vrai que tout, ils jouent comme 14 mythiques, ils jouent 13 mythiques, fait que c'est sûr que leur deck va être bon, là. Comme Elder Gargaroth, Questing Beast, Bloodbraid Elf, Season Pyro, Magus of the Moon, Clotis. Clotis, c'est selon moi une de leurs meilleures cartes parce que c'est tu peux pas dealer avec à part si tu le tortises ou l'Inquisition. Puis ils vont jouer.
Tu peux le pat aussi.
Ah ouais, fair enough, tu peux le pat. Ouais, tu peux le pat quand il est en créature.
Quand il est en créature.
C'est ça, mais il va quand même te drainer de 14 en attendant que tu puisses le pat. Ça, c'est si un jour il attaque avec. Mais selon moi, c'est juste un excellent deck. Là, c'est mid-range, on s'entend tout que ça prend pas la tête à Papineau pour pivoter Grul mid-range. Là. Tu vas jouer ton Arbor Elf tour 1, tu vas en taper avec le Utopia Spell sur ton land, tu casses ton Bloodbraid Elf, tu regardes l'autre, puis il se coupe. Ça, c'est mon c'est ce que j'ai pu vivre face à ce deck-là. Mais j'ai aussi gagné souvent.
Malheureusement, moi, pour ce qui est des decks avec Blood Moon,
ouais,
c'est,
tant joueur trop,
c'est un peu plus difficile. Donc, tu sais, même les Thought Not Seer en side, ils permettent pas de taper pour ça, pour taper pour la couleur. Sinon, écoute, majorité du temps, ce que je vais me retrouver à faire, je vais avoir... genre mon Hearthstone que je veux caster plus vite possible pour pouvoir tout péter. Sinon, c'est un 4 of Thraxos dans le main board. Parce que sinon, écoutez, sinon c'est pas drôle pour Tron contre Grul Midrange. Surtout la première fois que j'ai joué contre le deck, je savais pas encore. C'était juste avant que le deck commence à en pick-up un peu. C'était vraiment frais le ban. Joue justement contre le gars. Il me drop Magus of the Moon tour 3. Je suis comme, non. pour moi, je suis comme, c'est une carte de sideboard. Pourquoi En tout cas, je suis comme, tu mainboard.
C'est ça l'affaire.
Je suis comme, tu mainboard ça. Il me dit, ouais. Je suis comme, ok.
Ouais, mais c'est quand tu le sais pas, tu sais, comme, pourquoi t'es aussi désagréable. C'est... moi, je t'ai mis là pour jouer.
C'est comme dans le temps qu'on jouait à Pokémon, justement. Tu sais, par exemple, je dirais, notre méta local, je dirais 80% c'était Zoroark GX.
Ouais.
Moi, j'arrivais juste avec un deck pour counter Zoroark GX.
Ah, je sais.
C'était juste
moi, pour ça. Moi, j'étais un mouton, là, je jouais le meilleur deck. J'étais comme, ah, Zoroark, c'est la meilleure affaire. Puis là, j'arrivais contre Emilio, j'étais comme, tabarouette.
Ben, tu vois, moi, c'est le même effet que j'avais avec Magus of the Moon. C'est comme, ok, ben là, c'est quoi, tu viens juste péter mon deck, quoi.
Ouais. Mais c'est bon, c'est bon contre John aussi, là, parce que John a une mana base assez greedy pour casser les trois couleurs. Mais moi, la carte que j'ai le plus dans tout le deck, admettons, de Tron. Pas de Tron. Ben, de Tron aussi, mais de Grul Midrange, c'est une carte de scène. Ça coûte une mana. C'est le Vert Cryptic Command.
Veil of Summer.
Cette carte-là, j'ai un love-hate relationship. J'ai une excellente histoire aujourd'hui avec Veil of Summer, by the way.
Autrement connu sous le nom de Veil of Bummer.
Ouais, dans ma chambre, je l'appelle Veil of Bummer. Aujourd'hui, parce qu'il y avait un autre event le samedi au top deck, c'était juste un petit 3-rounder. Commencer avec le bail, toujours bien, quand il y a 3 rounds.
C'est free.
C'est free.
C'est juste du tour 2. C'est comme on dit. C'est comme on dit. Nous autres, en fait, il n'y a pas de joueurs. Nous autres, c'est juste du jour 2 qu'on
c'est
a.
Ça,
là,
dans c'est vrai.
On est rendu à ce point-là. On est trop bon. C'est juste du jour 2.
Le round 2, j'étais contre un deck Bent Soul Harder. Ça, c'est un Bent qui veut juste faire de la value avec la carte Ephemerate qui va flicker tes créatures comme les Icefang Coatl puis j'ai une carte. Eternal Witness, ça va chercher une carte de ton grave. Spell Queller, ça compte ton spell, puis c'est une 2-3 flying. Mais c'est pas ça. C'est la carte de Veil of Summer qui joue en side. Gamer, mon opponent me bat, c'est une bonne partie. Game 2, même chose. Là, Game 3, je suis sur un mall à 5, déjà, ça part mal. J'ai réussi à jouer une Lyanna of the Veil, lui, un Spell Queller en jeu. Je suis comme, ah, je vais le faire sacrifier sa créature, je vais retrouver mon Plague Engineer en dessous, je vais tuer son Emble. Je fais moins 2. Il y a une response à Fetch. Veil of Summer. En train de me dire que tu vas contrer l'habilité de mon Planeswalker, puis tu vas te donner Xproof en pigeant une carte. Ok, fair enough. Mais là, regardez bien ça, Veil of Summer va retourner à ma faveur à la round 3. Round 3, je suis contre un deck Band Value, Field of the Dead. Ça joue Uro, Teferi, mais ça joue aussi des Counterspells comme Mana Leak puis Force of Negation. Gamer, je pense que j'étais rendu à 17 land quand j'ai décidé de scoop. Puis j'en joue juste 21. Game 2, mon opponent, lui aussi, m'en a 5, puis il a pas pu répondre à une... 2 ult de Lyanna of the Veil. Fait que j'ai séparé deux fois ses permanents. Là, le bout intéressant s'en vient à la game 3. Game 3, On est tour 4. Je sais que mon opponent dans sa main il y a un force. Puis deux cartes que je connais pas. Genre en main, j'ai le quatrième land, un choke, puis je pense une créature. Je pige pour le tour. Vous l'aurez deviné, Veil of Summer. Fait que là, je fais comme ok, je fais mes plays comme du monde, je fetch ma forêt, je tape 3, je laisse ma Overgrown Tomb dans le tap, je fais choke. Dans son deck, comme quasiment juste de la lune, sauf une forêt puis une plaine. Il fait en réponse, je vais force pitch mon Growth Spiral. Là, je vois qu'il y a une carte en main, je suis comme ok, puis il tap out. Mais en réponse, je vais payer 1 dans mon deck vert. Je vais contrer ton spell, puis j'ai une carte. Jouer mon enchantement qui te permet de pas en taper tes lands, parce que choke, pour ceux qui le savent pas, mais d'après moi, tout le monde le sait, parce que ça vient de la 8ème édition, la pire édition. Ça fait que All Islands doesn't untap during its controller's untap step. Fait qu'il n'y a pas pu en taper, puis j'ai gagné avec un Bob qui m'a pigé des cartes. Fait que, ouais, Veil of Summer, excellente carte.
T'imagines si ta carte-là était encore en standard?
Oh my god, c'est comme...
C'était encore en standard, même si même en Pioneer aussi, ouais. Là, comment ça l'a répété tout le format. Même justement, Vert qui avait reçu probablement le plus gros Banhammer.
C'est ça.
Le format, je m'en rappelle encore, le format a juste été annoncé, mis à part les Fetchland que bien sûr méritaient d'être ban parce qu'ils voulaient un format sans Fetchland. Mais Leyline of Abundance,
ça c'était une erreur.
Oath of Nissa a été ban.
Ça aussi.
Est-ce que Once Upon a Time a fait du temps en Pioneer?
Oui, mais comme pas longtemps. Je sais pas si. Attends, je vais regarder.
Comme en standard, ça l'a vraiment pas fait longtemps. Ensuite, Veil of Summer aussi qui a pas fait vraiment longtemps. En fait, je pense qu'il a reçu le Banhammer right away, ouais. Si c'est pas comme dans le premier mois du format. Écoutez, ça va tout être pour l'instant. On va juste aller prendre un petit 5 minutes gorgée d'eau. Au retour, on va discuter un petit peu de Pioneer et en ce moment du sujet chaud. Par rapport aux anciens joueurs et les personnalités d'Internet de Magic the Gathering. On va parler un petit peu de la reserved list, et ce qu'on en pense. Donc, à plus tard. Alright, nous sommes de retour. Pendant cette pause, on en a profité parce qu'en ce moment, c'est le top 8 du Mythic Invitational, aujourd'hui le 12 septembre. En ce moment, on ne sait pas exactement comment ça finit, mais aux dernières nouvelles, Louis Salvato a gagné, a gagné le tournoi complet. Je ne suis pas sûr exactement où on en est, mais qui pilote une liste Rakdos Arcanist, qui est en fait une version un peu Rakdos Pyromancer, style Arena, qui bien sûr va jouer les Thoughtseize. Qui va jouer les Claim Fang, qui va jouer bien sûr les Young Pyro, les Croxa.
Je suis Tent, pas Tent District Legionnaire, comment il s'appelle, Jeddar Arcanist.
Of course.
Sûrement, ouais. Ok, dans le fond, c'est comme un Rakdos Midrange.
Parce que
je suis tenté de l'appeler Rakdos Pyro, parce que, tu sais, mettons, en moderne, dans le temps que ça existait, c'était Mardu Pyro. Mais là, si tu me dis que tu joues aussi les Jeddar, je pense que je vais juste l'appeler Rakdos Midrange. Mais ça, c'est
ouais, parce que le nom officiel de la liste, c'est Rakdos Arcanist, mais okay, on prend ça comme on veut. Après ça, on peut en parler un petit peu pour ce qui est de Pioneer. Donc justement, Rakdos Pyromancer qui justement commence à prendre commence à faire pas mal de bruit en Pioneer en ce moment.
Ouais, c'est un bon deck là, ça joue des bonnes. Thoughtseize dans Pyro, ça a toujours été une bonne chose à faire dans n'importe quel format que c'est légal, d'après moi. Là.
En effet, ouais. tellement juste d'infos, puis au final, c'est quoi, tu perds 2 de vie.
Ouais.
2 de vie, puis après, tu te choques.
C'est ça.
Quand c'est comme. Tu sais, pour les joueurs d'Eternal Format, c'est comme ça change rien. T'sais, par exemple, en moderne, qu'est-ce qui va arriver 3 quarts du temps dans un tour 1, tu vas fetch, choc. Déjà là, t'es à 17, tu Thoughtseize, t'es à 15. Mm-hmm. Tu sais, n'importe quel joueur nouveau, par exemple, moi, je vois ça, je suis comme.
Ouais, ça c'est parce que la vie dans Magic, c'est pas vraiment
c'est une ressource comme une autre.
Non, il faut que tu utilises ta vie comme une ressource, mais c'est pas comme comment je pourrais dire ça. À Pokémon, t'as des prize cards comme ok, mon opponent t'en a plus que moi, fait que c'est moi qui t'es en train de mener. Ta vie à Magic, je peux être à 4 points de vie là, puis c'est sûr et certain que j'ai gagné. Contrôle, vous le savez, on a tous déjà été dans la situation contre Contrôle qu'ils sont à 1 point de vie, mais vous savez que vous avez perdu parce qu'il y a 6 cartes en main. Puis toi, tu n'as zéro, puis t'es sur le top deck à chaque fois que tu veux jouer ton Burn Spell, ou t'attends d'en avoir deux pour passer à travers un Absorb. On sait tous que finalement, vous avez perdu.
Maintenant. Ouais, tellement complet comme deck. Mais par contre, le deck, il faut qu'on parle, par contre, fraîchement banni de Standard, Maintenant, rendu en Pioneer, on parle ici de Timur Rek.
Ah.
Ou Timur qui joue vert, rouge et bleu avec un bon Wilderness Reclamation. Un deck qui était partout en standard. Les deux meilleurs decks, c'était Timur Rek et Four-Color Rek. Juste parce que tu pouvais splash un Teferi dedans. Écoutez.
Je me souviens, il y a deux ans, là, dans le temps que je jouais encore en standard, c'était tellement désagréable jouer contre ça. Plus rendu le meilleur deck en Pioneer, on peut-tu finir d'arrêter de taper toutes ces lands? C'est comme... Wilderness Reclamation, je sais pas qui a fait ça dans le gameplay design de Magic, là. Selon moi, c'est une des pires cartes. Untaper tes lands, là.
Mais j'ai l'impression... Tu vois, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vraiment l'intention, c'était juste, par exemple, de jouer peut-être du Flash.
Ouais, ou... dans un Simic Flash, ok, c'est somewhat fair, mais comme...
Ou sinon, une carte pour Commander.
Ouais, mais c'est ça, ou Commander. Comme True Name Nemesis, à la base, c'est une carte pour Commander. Choose a player. C'est... Là, c'est comme, choisis mon opponent, puis j'ai
pas... Ouais, mais je pense pas qu'en ayant designé la carte, ils ont pensé à en avoir deux sur le jeu.
Ouais.
Et pour plein de... Untap Shenanigans, pour après ça, Explosion pour 10, et puis j'ai 10 cartes. Écoutez, moi, ce deck-là, Timur Rek, je le jouais en standard sur Arena, avant même que Uro y sorte et que ça devienne... incroyablement dégueulasse comme deck. C'était une liste faite par Mega Mogwai qui s'en a joué justement dans un Invitational ou un genre d'événement comme ça. Et il jouait par exemple, c'était des Escape to the Wild, c'était Niv-Mizzet Mainboard qui, moi, justement, Niv-Mizzet, c'est probablement ma meilleure carte, mais en fait, pas ma meilleure carte, ma carte favorite en standard. Et prends une de mes cartes favorites ever juste parce que j'aime ça, jouer beaucoup de spells et faire du dégât et justement d'être récompensé pour piger toutes ces cartes-là. Donc Niv-Mizzet étant une de mes cartes favorites dans Magic. En fait, on parle ici bien sûr de Niv-Mizzet par une, mais une de mes cartes préférées dans Magic. Et justement, je me dis, ah ben là maintenant je peux untap mes lands, donc je vais pouvoir garder des threats comme Bone Crusher Giant, en fait le de Stump, ou Brazen Bard, de pouvoir bander une créature dans sa main, ou même de pouvoir jouer Frilled Mystic, de pouvoir counter quelque chose, et en plus de ça avoir un 3-2 sur le board pour 4. C'était vraiment comme un deck que j'aimais vraiment vraiment jouer, puis que j'ai eu bien du succès avec ça, hein. J'ai monté en platine avec ce deck là en best of 3, parce qu'en best of 1 tout ce qu'on va retrouver ça va être du mono red. Donc pour moi c'était assez, puis là j'étais presque intéressé un jour à me le construire justement
en papier ayant,
ouais, ayant, okay, moi, ouais, ayant moi-même un playset de Wilderness Reclamation.
Ouais, ça coûte comme 10$, là, on va dire. Là,
ah ouais?
Ben, il me semble qu'un playset de Wilderness, de ce que je vois, parce que je suis en train de regarder la liste de Wilderness Reclamation en Pioneer. By the way, mad disrespect au deck control avec 4 Dispute Mainboard. C'est comme, ok, il va pas perdre à 3 Fairy, ce qui est fair. Mais ouais, 4 Wilderness Reclamation, c'est 10,52 US. Ok, peut-être 20$ taxes incluses.
En fait, non, mais ça, c'est le total. Parce que là,
ça, c'est le total.
C'est ça, en ce moment, je suis en train de regarder sur 3 Dragons.
Combien sont 4-5$?
3,50.
Ok.
Ah, 3,50, en fait, le print original de Ravnica Legends ont été reprint dans Commander 2020.
Ah oui, c'est vrai.
2,50 chacune. Oui. Mais si jamais tu veux blink ton deck, puis tu dis, ah, ben, je vais prendre des foils, ben, ça va te revenir à 25$. 25$ chacun. Mais non, écoutez, moi, c'était un deck que j'aimais vraiment, que j'ai considéré construire en papier justement parce que j'avais ça. Mais bien sûr, tout ce qui me gardait, c'était la land base en Teamer.
Qui est somewhat expensive pour une land base standard.
Qui est vraiment
les Shocklands et tout. Là.
Qui est vraiment cher. Donc finalement, ben, je me suis juste dit, ben, je vais jouer sur Arena. Puis en même temps, il y a la pandémie qui est arrivée. Donc il n'y avait aucun événement en magasin. Puis là, de revoir justement en revenant du confinement, dans les magasins, j'ai joué 2-3 événements standard. En plus de voir dans les Mythic Invitational à la maison, que c'était soit Timur Rek ou Four Color Rek, ou comment il l'appelait, c'était Mythic Reclamation, quelque chose comme ça.
Ouais.
Four Color Mythic, juste parce que tout ce que je jouais, c'était genre des mythiques là-dedans. Fait que c'est comme sûr, tu sais. À part Three Fairy, parce que I guess ça va être juste.
Non, mais c'est une erreur. Parce que c'est pas aussi bon, bref.
C'est pas assez bon pas pouvoir jouer un Sin Speed.
J'ai jamais vu une carte autant détruire le match-up d'un deck Mirror Control. C'est legit le race au premier que Three Fairy, parce que c'est. Toutes tes spells ont Can Be Counter après. C'est vraiment.
Non, c'est vraiment une carte impossible. Non, ça va pas être Counter, mais. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va reparler un peu plus tard dans un autre épisode de Standard, mais comment l'influence de Tooth Fairy, genre c'était quoi? Tu sais, par exemple, on parle souvent de, dans les formats que Bolt est dedans, tu sais, on dit souvent, est-ce que cette carte-là, c'est un Bolt bait, justement, juste ouais. Parce que la menace de Bolt dans n'importe quel format que c'est dedans, c'est comme, c'est faut en tenir compte. Ouais. Ben maintenant, avec Tooth Fairy en Standard, il y a tellement de cartes qui pouvaient juste pas être jouées à cause de Tooth Fairy, puis des cartes qui sont techniquement assez bonnes, par exemple, Finale of Promise. On n'a jamais vu EZ Phoenix être vraiment un super deck en standard autant que ça peut l'être en Pioneer et que ça l'était en moderne.
Ouais.
Et mais justement, que tu avais justement une carte comme Finale of Promise qui est comme, ben, sure, pour une carte, I guess pour 4 mana, c'est 3 spells. T'sais, c'est comme, j'ai celui-là, puis après ça, ben, si je veux, je peux jouer n'importe quoi.
C'est Upcrash 2, on va dire. C'est ça.
Mettons Upcrash 2. Mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais
non,
vu EZ
Phoenix.
Non,
ça, puis ça contrait aussi toutes les spells avec Suspend. Moi, je me souviens quand je jouais Burn. Je me suis fait contrer deux Rift Bolt qui étaient en suspend parce que mon opponent avait Teferi Go. Là, j'ai regardé ma carte. J'ai comme, ouais, ça marche pas. Hein. Fait non, les deux sont contrés. Je fais, ah, nice. Tu viens de me contrer mes deux Bolt en pigeant de carte. Toujours plaisant.
Donc, c'est comme vous pouvez voir, déjà, moi, c'est pas mon deck favori à jouer contre.
Non, moi non plus.
Justement, la semaine passée, c'était la première fois que je jouais le deck qui était. En fait, je jouais EZ Prowess. J'avais un Brazen Borrower. Que j'étais prêt à Pelithaft. Il était à 3 mana, j'étais prêt à Pelithaft son Wilderness Wreck. Finalement, il l'a jamais mis. Puis en tout cas, c'était. Le fait qu'il n'ait pas mis, que moi j'ai laissé 2 mana ouverts et que lui, il a laissé après ça un 4 mana ouvert parce qu'il n'avait pas joué le Wilderness Wreck. Même je pense qu'il ne l'avait pas. Ce qu'il me disait mon adversaire après la game. J'ai essayé de jouer trop tempo, puis au final, ça m'a juste coûté la game parce que juste comme ouais. Ce tour-là que j'ai pas essayé d'attaquer, je pense qu'il n'y avait rien. Là. Mais ça m'a coûté la game.
Non, c'est ça. Puis,
au final perdu 1-2.
Sagreact, ouais.
C'est très Sagreact de jouer contre Teemerick. Puis ensuite, bien sûr, le dernier deck, on en parlait un peu plus tôt, justement, de Mono Green Planeswalkers. Ouais. C'est juste que cette fois-ci, au lieu d'avoir des Leyline of Abundance, ben, à la place de ça, on a finalement accès à Burning Tree Mystery, et on a notamment accès à Oath of Nissa.
Oath of Nissa qui a eu moins un jour de temps de vie en Pioneer, parce que c'était, je pense qu'ils, en fait non, je crois qu'ils ont eu une semaine de légalité sur MTGO.
Ouais, pour tester le format.
Ils ont fait, ah, c'est trop fort. Je veux pas que ça soit encore une méthode Saili et Philidor Guardian, le deck combo qui tue tour 4. Ils ont décidé d'abolir ça, ce qui est une bonne chose. Ils auraient dû faire ça avec Oko aussi, mais comme ils ont pris trop de temps.
Mais sinon, pour ce qui est des listes, c'est assez similaire. Mis à part que justement, Burning Tree Mystery est banned dans Historic. On l'a quand même en Pioneer. Sinon, bien sûr, c'est Oath of Nissa et Nykthos qui est disponible dans le format pour pouvoir avoir Infini Land. Seule différence maintenant en Pioneer, pour le sideboard, on a accès à Darksteel Citadel s'il faut.
Ça, j'aime ça. Le fait que tu peux aller chercher un land, c'est vraiment.
On a accès à Hunt the Hunter. Pithing Needle.
Joue-tu Sorcerer Spyglass? Ah non, vu qu'il joue Pithing Needle,
non,
I guess.
Non, c'est ça. Ouais. Sky Sovereign Console Flagship.
Ah, j'ai joué ça en standard. Crew, quoi, c'est un crew 3, 6, 5?
Crew, j'ai dit ça tout de suite. Crew 3.
Ouais.
Crew 3 pour une 6-5, puis quand elle rentre sur le battlefield et attaque, c'est 3.
Ah non, j'ai déjà crew mon. Comment il s'appelle? Skyship Console?
Ouais.
Je me souviens, j'avais un Scrap Heap sur le jeu.
Mm-hmm.
Avec mon Scrap Heap, j'ai cru mon
Console Flagship.
Je me souviens, ça, c'était des bons moments.
Attaquer des bons moments, malheureusement, je n'ai pas joué ce standard. Non. Et même pas. Est-ce que c'était joué dans l'original liste de Red Black Artifact en Pioneer quand ça jouait les Smuggler's Copter?
Non, ça le jouait pas parce que là, c'était plus un build qui essayait d'aller avec une curve lower. Je pense que le. Ta queue finissait à 3 ou puis t'avais comme une ou deux Chandra.
Scrappy, c'est un 2 drop.
Right, Scrappy, c'est un meilleur 2 drop of all
time. Mais peut pas bloquer.
J'ai tellement joué Scrappy. J'ai joué Scrappy toute sa longévité à standard. C'était selon moi le meilleur 2 drop. Ça revenait quand tu voulais. Fallait juste que t'exiles une autre créature. Ça et Boomat Courrier, une combinaison parfaite pour détruire tous les decks contrôle de votre
adversaire. C'est vrai que Boomat Courrier, c'était assez pété comme carte. Mais mettons, assez parlé, par exemple, du format compétitif. J'aimerais vraiment qu'on parle. Là, cette semaine, je sais pas si tu as vu, mais on a deux des plus grandes personnalités internet de Magic, Professor de Iron Community College.
Personne ne l'appelle la même. Ouais.
Brian, de son vrai nom. Et,
je savais pas que c'était Brian.
Il me semble que c'est Brian.
Ça se peut. Il a l'air de Brian.
Ben, Pleasant Kenobi, il réfère souvent au prof A, Brian.
Okay.
Et Rudy de Alpha Investment, ouais. Qui est probablement La face de l'investissement Magic, du côté finance de Magic the Gathering, disant lui-même qu'il ne joue pas à Magic, ouais. mais que, ben, qu'il ne joue plus en fait, qui est juste maintenant dedans pour le côté investissement. Et justement, c'est vraiment le fun d'écouter parler parce qu'il sait de quoi il parle. Pour tout ce qui est des finances de Magic et justement des finances en général et de comment il est capable d'aligner les deux. Donc, Prof est sorti avec une vidéo cette semaine. Comme tu sais bien, Prof, son but dans la vie maintenant, sa mission, c'est de faire reprint les meilleures cartes de Magic pour pouvoir justement intéresser plein de nouveaux joueurs. Ouais. Plus de joueurs, mieux c'est. Tu veux jouer un bon deck? Sure. Tu veux jouer quelque chose d'autre que du mono red. Ouais. Parce que mono red,
ça coûte pas cher. Mais
c'est le truc le moins cher à jouer, mais à un moment donné, t'es comme tanné de jouer mono red. Parfois, t'as le goût de jouer un petit peu de mid range. T'sais, lui-même étant la raison pourquoi Oubliette a été reprint dans Double Masters, il en fait sa mission.
Ah, ben c'est comprenable.
Lui et Pleasant Kenobi, leur but numéro un en ce moment, c'est de faire reprint les Fetchlands. Mm-hmm. Ils l'ont presque eu, c'est juste que ça va arriver. Ça va arriver dans un an. Donc, Prof, cette semaine, il a sorti une vidéo intitulée The Reserve List is a Lie. Donc, ce qu'il a expliqué au final dans la vidéo, c'est que. La reserve list, c'est pas justement quelque chose qui est set in stone. Donc, elle peut toujours changer. Et face à des changements, il y a des gens qui ont menacé de poursuivre Wizards of the Coast sur ça, s'ils reprint certaines cartes. Et justement, lui, il sortait des exemples. Par exemple, telle carte sont sorties de la reserve list. Et justement, c'est des cartes qui sont plus abordables. Un exemple de ça, ça serait Karn Silver Golem. C'est sûr que là, dans une méta 2020, Karn Silver Golem, c'est plus ce que c'était. Non, mais puis même encore là, la prochaine carte que je m'apprête à nommer, Shivan Dragon. Shivan Dragon, c'est une carte emblématique de Magic, une des premières cartes qui est sortie. Maintenant, si on veut un Shivan Dragon, on peut en avoir dans les decks des marreurs qui donnent gratuitement dans les magasins qu'on peut avoir vraiment pour du change, puis comme je te dis, même gratuit. Mais le print original de Shivan Dragon va revenir à 5 000$. Donc il dit, ben là, si on reprend de ces cartes-là, comme vous voyez, le print original, il n'est pas affecté. Par exemple, Birds of Paradise, super bonne carte en moderne. Tu vas en pogner quoi, 7$, je pense, un Birds of Paradise?
C'est vrai, je serais surpris de voir, parce que me semble que ça m'étonnerait pas que ce soit 10-15$, ou là, à moins que je dise n'importe quoi, mais me semble.
Je te regarde ça tout de suite. Donc, Birds of Paradise, si tu veux l'option la moins chère, mettons chez 3 Dragons, ça va te revenir. On peut y aller à peu près 13$.
Ah, c'est ça.
11$.
Mais comme, tu sais, 10 comparé à la première, je sais pas combien il vaut.
12$. Hein? Donc, justement, le print original est 3 000$.
C'est ça.
Donc, justement, lui, son point de vue, c'est que ça l'affecte pas. Et justement, tu sais. Rudy, il a répliqué à ça en sortant juste aussi une vidéo réponse de 30 secondes qui en parle de... En fait, il a rien dit exactement. Il a juste dit « The reserve list is fine ».
OK.
Si, admettons, on était en 2020, 2021, peu importe. Wizards, ils font, admettons, un sondage. Quelle carte? Puis là, quand je dis « reprint », là, je parle « reprint » comme dans des sets standards.
OK.
Donc,
ça va être légal en moderne.
Donc, il aurait accès à Modern et Pioneer.
Ouais.
Vite. Quelle carte?
Ben là, c'est comme...
Quelle carte? Peut-être même pas nécessairement la reserved list, parce qu'on va supprimer Black Lotus et toutes les marques de
ça.
C'est ça. Mais tu sais, par exemple, si on peut aller plus du côté Legacy, là. Genre vraiment, tu sais, des Legacy staples.
Mais tu sais, ils prennent... Mais pas une balle, mais comme Brainstorm, ça serait le fun.
Brainstorm, ça serait le fun.
Ça serait peut-être un peu trop cassé pour Storm en moderne, là. Mais...
Ça serait cassé pour Storm en moderne. Ça serait cassé pour Miracle.
Les duos, sinon, tu sais, c'est...
C'est vrai que les duos, ça serait agréable aussi. Imagine, en faisant mes recherches, ce qui se disait, c'est que les duos étaient disponibles pour du change il y a quelques années.
Ouais.
Jusqu'au gros boom de 2017. Là.
Du change, mais comme tu dis, du change à 50-75$.
Ouais, mais du change à 50-75$. Quand tu y penses, ton 50-75$, c'est une Fetchland en ce moment. Et
non,
justement, comme il disait, quand Cons of Tarkir est sorti, tu sais, des Fetchlands, tu peux les retrouver pour du change aussi. Là. C'était stupide.
Ouais, comparé à ce que ça vaut aujourd'hui, c'est du change. Comme moi, du change, c'est ce que j'achète mes Durest. Durest, 14 cents. Non, c'est ça.
Ben, du reste, ça reste que c'est un popper.
Popper staple.
C'est un staple en popper en monoblack dévotion, mais ça, bien sûr, il y a juste moi qui regarde du popper ici.
Popper.
je vise personne ici, mais si jamais on a un magasin ou deux ici qui.
Je vais faire des popper events, il y aurait Emilio. Je vais venir pour supporter Emilio, là, mais.
Tu veux même pas jouer?
Non, je vais jouer, mais quand je vais être ton support moral, parce que je sais que tu vas perdre. Oh, maman! Non.
Quoi? Voyons donc, ouais, c'est abordable, c'est ça qui est.
Tu quoi? T'es sur Grultron, je pense?
Oui, j'ai Grultron avec Ulamog Crusher.
Ulamog Crusher.
Attaque à chaque combat, puis nice genre Annihilator. Ouais, je veux dire, j'ai peut-être pas tour 3, puis là, par contre, le seul problème, c'est que Expedition Map a été banni de Popper, mais tu sais, il y a d'autres decks fucking bons en Popper. Tu sais, t'as Delver Scred, t'as toujours comme un Tron qui joue des Muldrifter et des Impulse et des Namek Wall. On a toujours les deck stomp parce que Rancor est une carte commune. T'as toujours Burn, bien sûr, dans n'importe quel format. Burn va être bon. T'as Pestilence qui est dans le format. Et t'as Mardu Monarch. Puis t'as même un deck Affinity dedans. C'est quand même varié comme format.
Non, je sais pas que c'est pas varié. C'est juste que la popularité là-dessus est comme de moins 2. C'est pas.
Parce que moi, l'intérêt, il.
Ah ouais! Il ceux qui en ont plein d'autres là, qui sont comme toi, là, qui sont comme. Oh,
pour jouer des decks 36$ US, là. Ah.
I'm in.
Moi, je suis on board, là.
Brainstorm, est-ce légal? Hein?
Ouais. C'est ça aussi qui m'intéresse du côté Popper, c'est que j'ai pas le goût de dépenser pour un deck Legacy, tu sais. Par exemple, si on veut regarder les premiers decks en Legacy. Par exemple, Snoko, qui est le premier, qui est premier sur la liste. C'est un deck, par exemple, à 3 200$. Ouais. Teamer Delver, c'est un deck à 4 200$. Donc, c'est vraiment... Ça rend pas la game attrayante. Tu sais, mettons, moi, je veux jouer Brainstorm, je veux jouer Preordain, je veux même jouer des Bolt aussi, mais c'est comme... Mais dans un truc qui est pas mono-red, là, c'est comme... Ben, sure, Popper peut me donner cet accès-là de jouer, par exemple, un EZ Delver-ish deck. Ouais. En popper, puis à me donner accès à des cartes de Legacy comme Preordain ou toutes ces cartes-là. T'sais.
Mais l'affaire avec le Legacy, là, mettons, il n'y aurait pas le COVID, là. C'est que tu vas quand même retrouver le même problème avec popper, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stores qui en fait. Tiens, mettons, j'essaie de penser, je pense qu'il y a le Fast qui en faisait un aux semaines ou aux deux semaines. Je sais pas s'il fonctionne, mais tu sais, même s'il fonctionne, ça reste juste une fois par semaine pour le jouer. Mais comme c'est vrai que c'est le jeu mieux quand même.
Mais selon moi, si les magasins commençaient à faire des événements. Ouais. De popper, ça serait beaucoup plus populaire juste par le
à
fait.
À cause du prix. Non, c'est
juste,
sûr.
Juste par le fait que ça coûte pas cher. Et je dirais que pour toute la player base, c'est de quoi de nouveau, tu sais. Parce que pour tout le monde, autant toi que moi, que popper, c'est quelque chose qu'on voit. Puis on est comme, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Puis au pire, t'aimes pas tant le deck.
Comment qu'il. Comme ça, pas sortir 20$, refaites-moi un autre deck.
Ben, c'est ça.
C'est comme legit essai erreur.
Ben, c'est ça. Écoutez, ça, c'est pas mal le mot de la fin. Ouais. C'est pas mal tout ce qu'on avait à dire pour ce podcast-ci. Si jamais vous avez des questions à nous poser, on va pouvoir vous en répondre dans les prochains épisodes. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à dropper un like, peu importe sur quelle plateforme. Ouais. peu importe sur quelle plateforme que vous écoutez ça, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Et écoutez, pour ce qui est des épisodes, on aimerait ça vous en sortir un à peu près à chaque semaine pour faire un récapitulatif de notre semaine et des événements dans Magic. Mais sinon, écoutez, pour moi, c'est Emilio.
Salut, c'était Massimo, merci, bonne journée.
Ah, merci à vous, bonne journée là.